ceux qui se confient en l'Éternel. C'est par ces mots que commence ce psaume. Ils sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle demeura toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas la main vers la fraude, les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. C'est ce beau psaume 125 que vous avez peut-être découvert. Il était indiqué sur le Memento ou le Frat News. Alors c'est un texte que j'ai proposé de prendre pour ce dimanche, parce qu'une communauté me l'a imposé prochainement. Donc j'étais un peu plongé là-dedans, et quand Anne-Sophie m'a interpellé en me disant « Je préside, est-ce que tu sais sur quoi tu vas parler ? Est-ce qu'il y a un titre, un thème ?» Alors j'ai relu un peu les premières notes que j'avais prises, et puis j'avais mis, en tout cas comme premier mot, « affirmation de foi ». Il me semblait qu'il y avait dans ce psaume des éléments qui nous permettait de poser certaines choses, certaines bases, qui pour moi étaient édifiantes, en tout cas très encourageantes quand j'ai lu ces paroles. Alors voilà, je suis devant vous avec ça ce matin. Alors on va faire un petit tour en Israël. J'y étais au mois de mai pour accompagner un groupe. Et puis on a commencé tranquillement notre voyage. Nous étions à Jaffa d'abord, c'était très plaisant. Et puis j'avais sur mon cœur une parole qui me semblait être le fil conducteur de tout notre séjour, avec 25 personnes là. C'est dans le livre d'Osée, Dieu dit à son peuple, je veux l'attirer et je la conduirai, l'attirer vers moi, je la conduirai au désert et là je parlerai à son cœur. Et c'était encourageant parce qu'il y a tout de suite une dame de 77 ans qui est venue vers moi à la fin, qui m'a dit, bien, c'est le texte que j'ai reçu quand j'avais 40 ans et c'est là que vraiment j'ai compris d'une manière très précise l'amour de Dieu qui voulait me parler dans le temps de crise que je traversais. Alors je trouvais ça très beau, très touchant, très encourageant. Je me suis dit, c'est magnifique. Et en même temps, je me disais, et toi, est-ce qu'il voudrait te parler, peut-être t'attirer au désert, puisqu'on allait commencer notre séjour par 4 jours dans le désert. Et voilà, donc on a avancé un petit peu. Peut-être qu'on peut enlever les spots, Dominique, je ne sais pas comment ça... Ça met un petit peu plus de contraste sur les images. On s'est retrouvé dans un camp de Bédouins, tout près d'Arad. C'était magnifique. Et le lendemain matin, il y avait au programme la visite de Masada. Masada, ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est un lieu chargé de beaucoup de choses, beaucoup d'émotions en Israël. En l'an 73, en fin de révolte juive, là, il y a plus de 900 juifs qui se sont donné la mort volontairement quand les Romains ont attaqué. Et ils sont montés par cette rampe qui avait été construite par des milliers d'esclaves. Et il y a peu de groupes qui vont entrer de ce côté-là. Il y a un magnifique téléphérique suisse de l'autre côté de la montagne, c'est plus agréable. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant avec un groupe. Et d'ailleurs, ils étaient très contents, très heureux. C'était une journée magnifique, et moi aussi. Et puis voilà, on a commencé tôt le matin. Il y avait juste un autre groupe, pas très nombreux avec nous. Et je me suis dit, avant de monter à pied, il faudrait peut-être, on vient de déjeuner, je vais vite aller aux toilettes. Et j'ai couru pour aller aux toilettes. Sauf que dans le parking que j'ai traversé, il y avait des poteaux qui étaient séparés de 7-8 mètres. Et entre deux de ces poteaux, il y avait une chaîne que je n'ai pas vue. Alors je me suis étalé. Magnifique, ça commençait bien. Et je suis allé aux toilettes. J'ai vu qu'il y avait un peu de sang sur mon bras comme ça. Bon, j'ai vite passé un petit peu d'eau. Elle dit, on y va. Le groupe s'était aperçu de ce qui s'était passé. La guide est venue tout de suite vers moi. Elle m'a dit, montre-moi ton bras. J'ai dit, oh, mais il y a quelques égratignures, c'est bon, mais montre-moi ton bras. J'ai montré mon bras. Elle m'a dit, mais mon pauvre ami, ton coude, il est ouvert. Il faut aller faire recoudre ce coude. J'ai dit, mais écoute, tu rigoles ou bien un petit peu d'eau, c'est bon, il y a sûrement quelqu'un qui a un sparadrap et puis c'est bon. Non, tu vas recoudre, on va à l'hôpital recoudre ton coude. Ah, j'ai dit, non, mais écoute, tu plaisantes, mais bon. Alors, heureusement, dans l'autre petit groupe qui était là en même temps que nous, il y avait deux infirmiers. Et les deux ont fait le même constat et m'ont dit, tu vas à l'hôpital, tu vas recoudre ton coude. Et on est parti à l'hôpital. Aux urgences. Et c'était assez perturbant pour moi, je dois dire, parce qu'il fallait que tout le groupe soit d'accord, ils étaient prêts à cette ascension. Ça bousillait la journée, en tout cas pour moi, puis le groupe, ça m'embêtait un petit peu de les quitter comme ça. Mais ils ont été tous d'accord de venir à l'hôpital avec moi jusqu'à Beersheba. Alors, moi, pour être honnête avec vous, j'avais sur mon cœur aussi, pendant ce voyage, qu'on passe du temps à louer Dieu, à l'adorer. Et j'avais préparé un chant pour cette journée. Vous connaissez ce cantique ? C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Vous connaissez ou bien ? Il y en a qui ne le connaissent pas ? C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Alors voilà, j'avais un combat en moi, je dois dire. Et j'ai dit au groupe, écoutez, pour être honnête avec vous, j'avais préparé ce chant, puis j'ai envie de le chanter, si vous êtes d'accord. Même si je me rends compte que pour vous, vous n'êtes peut-être pas très, très joyeux, parce que la guide était déjà allée avec les tickets pour rentrer, grimper cette montée. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Puis ils m'ont dit, ouais, mais surtout toi, t'inquiète pas. Bon, ils ont été gentils. Et j'ai dit, écoutez, j'avais préparé ce chant, j'aimerais qu'on le chante. Voilà, je ne savais pas trop ce qui m'attendait dans cette journée, mais on y est allé gaiement, et c'est bien. On est arrivé à l'hôpital de Beersheba, la guide est venue avec moi, on a laissé le groupe dans le parking. Il nous a fallu bien une demi-heure déjà pour trouver les urgences, c'est un immense hôpital. Après les formalités, je ne vous dis pas combien j'ai apprécié que la guide soit là. J'avais un certain nombre d'obstacles, de langue notamment. C'était évidemment plein, vous connaissez le service des urgences, certainement. Voilà. Puis la guide a dit, ben moi, il faut que je continue avec le groupe. Alors je te laisse. Et puis l'agence, notre agence qui est sur place, t'enverra quelqu'un qui viendra bientôt. Et voilà. Alors j'ai dit, oui, je comprends tout à fait. Et voilà. Alors j'ai commencer ma journée aux urgences avec des contrôles, une radiographie pour voir si c'était pas cassé à quelque part, etc. Et puis voilà, de couloir en couloir, de lieu en lieu, dans une ambiance d'urgence, avec des gens qui pleurent, avec des gens qui poussent des lits, avec des personnes qui ont toutes sortes de douleurs, etc., des bandages, bon. Alors, ça m'a fait un peu réfléchir quand même, ces quelques heures d'attente. Je me demandais comment ça allait se dérouler. Et voilà que l'envoyé de l'agence est arrivé. Youssouf. Youssouf est arrivé. J'étais très content qu'il soit là parce que, honnêtement, ça commençait à me peser un petit peu, cette atmosphère des urgences. Et puis, il me disait, bon, si on m'accompagne chez le médecin aussi, ce sera peut-être pas mal. Parce que s'il me donne des indications en hébreu, je serai mal. En anglais, suivant le vocabulaire médical qu'il va utiliser. Et s'il faut des médicaments, etc., et un traitement particulier aussi, pas très simple. Et Youssouf est arrivé. Je l'ai accueilli un peu comme un sauveur. Un gars qui habite Jérusalem-Est, palestinien, de religion chrétienne orthodoxe. C'était sympa. Les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes n'aiment pas beaucoup les chrétiens évangéliques. Je ne sais pas si moi j'aime beaucoup les chrétiens orthodoxes, mais je sais que les chrétiens orthodoxes n'aiment pas beaucoup les chrétiens évangéliques. Ils sont en tension avec eux. Mais ce gars, il était franchement fantastique. Jusqu'à ce qu'il me dise une phrase qui m'a tué. Il me dit, si cet accident est arrivé à toi, c'est parce que Dieu t'a choisi. Là, j'avais plus trop envie de chanter Alléluia. Et je me suis dit, mais attends, le gars, il habite à Jérusalem-Est. Il y a beaucoup de musulmans à Jérusalem-Est. Le gars, il est imprégné de l'approche musulmane, du fatalisme. Tu as un accident, ben, Inch'Allah, Dieu l'a voulu. Alors j'étais assez fâché. Et je lui ai dit, mais écoute, j'ai besoin que tu me précises un petit peu ta pensée. Déjà que s'il m'avait dit Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, etc., etc., ça aurait été peut-être pas très content, mais là, et voilà. Et il me dit, mais oui. Il me dit, je te dis ça parce que déjà mon père était prêtre orthodoxe. Et il disait souvent ça dans ses messages. Et moi, je crois que c'est vrai pour ma vie, je crois que c'est vrai pour ta vie. Alors écoute, tu pourrais être très fâché, tu pourrais être frustré, tu pourrais être en colère contre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a permis ça dans ta vie? Mais je vois que tu n'as pas l'air fâché, tu n'as pas l'air trop abattu. Et je crois que Dieu veut faire quelque chose avec toi de cet accident qui t'est arrivé. Que ce n'est pas pour rien, tu verras. Alors là, ça allait quand même un petit peu mieux dans son approche, même si j'applaudissais pas des deux mains. Mais finalement, on a eu un contact avec cet homme qui était magnifique. Il m'a ouvert son cœur, on a pu vivre des choses très belles. Et rien que ça, je disais, au fond de moi-même, c'est magnifique, parce que moi, je ne connais pas beaucoup les chrétiens orthodoxes, vu que je sais qu'ils n'aiment pas beaucoup les chrétiens évangéliques, je ne me suis pas souvent approché d'eux. Mais je comprends pourquoi ils sont fâchés avec les chrétiens évangéliques. Je sais pourquoi. Il y a des raisons profondes. Il n'empêche que j'ai vécu des moments de grâce avec cet homme. Je me sentais avec un frère en Christ, authentique, qui était là dans un moment délicat. Et puis, évidemment, un médecin russe qui m'a juste dit qu'il s'excusait parce qu'il avait oublié tout son anglais en venant d'Israël. Ça faisait 5 ans qu'il était là, mais il avait dû tellement se concentrer sur l'apprentissage de l'hébreu, ce qui était sage, à mon avis, pour un médecin qui travaille en Israël. Donc, il ne pouvait pas m'expliquer tellement en anglais des choses. Et Youssouf était là. Il a bien enregistré tous les médicaments qu'il fallait acheter à la pharmacie. Il m'a accompagné à la pharmacie. Il m'a raccompagné aussi en traversant le désert en fin de journée pour rejoindre le groupe dans le kibbutz. Il m'a dit, tu vois, Dieu est bon. Tu as encore un chauffeur privé, rien que pour toi. Si tu étais dans le bus, vous seriez 25. Là, tu es tout seul avec moi. Alors, Je vous dis ça parce que Anne-Sophie m'a laissé une heure de prédication, donc je l'ai trouvé très gentil. Dans quelques-uns ont su que j'avais été aux urgences en Israël. Et quand je suis rentré à la fin mai, on m'a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis je n'ai jamais eu le temps d'expliquer. Alors ce matin, j'ai dit « Je leur explique. » Ça rejoint ma thématique, affirmation de foi. Cet homme avait quelques affirmations bien enracinées. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à ce qu'il m'a dit, comment vous auriez accepté ses paroles. On peut remettre en question certaines affirmations de foi. Des gens qui disent « Dieu guérit toujours ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Jean-Claude Chablot, qui est tout à fait pour la guérison physique, a écrit un magnifique livre, il a pratiqué la guérison physique de sa vie, il a dit « Il y a 5% de gens qui sont guéris grâce à la prière ». Mais je dis « C'est déjà magnifique ». Alors celui qui m'affirme que Dieu guérit toujours, je continue de l'aimer, ce frère ou cette sœur, mais je dis « Mais écoute, je ne suis pas d'accord avec toi ». Puis j'essaye d'expliquer. Voilà. Alors, certaines affirmations de foi des gens que nous côtoyons, je ne peux pas être toujours d'accord. Mais par contre, je peux admettre que je peux être remis en question par certaines affirmations de foi, certaines approches de personnes qui ont plus de recul, plus de maturité, et où j'apprends quelque chose. Alors maintenant, on va aller quand même un petit moment plus sur la parole, et dans ce psaume 125, je vais choisir trois affirmations de foi que je partagerai avec vous. J'enfoncerai des portes déjà entrouvertes. Mais on va avancer. Vous verrez des vues de Jérusalem un petit peu sous différents angles. Vous verrez que Jérusalem, effectivement, est une ville très particulière. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Voilà, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas l'Everest ou le Mont Blanc en Israël. C'est cette montagne de Sion, ces collines de Sion, c'est 700, 800 mètres, il y a plusieurs collines comme ça. Mais Dieu utilise ce support pour nous révéler, nous transmettre quelque chose de profond, de riche. C'est une double image de stabilité et de permanence. D'ailleurs, comme la montagne, les montagnes en général, image de stabilité et permanence par rapport à nous. On peut vivre peut-être jusqu'à 100 ans, 110 ans, Jeanne Calment, 127 ans, je crois, mais à un moment donné, on décède. Les montagnes, elles sont là, elles restent, elles sont solides. Et le temple de Jérusalem était entouré de ces collines. Et qui dit temple, dit pour les Juifs présence de Dieu. Présence de Dieu très forte à Jérusalem. C'est là que c'est cette ville que Dieu avait choisie pour y faire demeurer son temple. Et même les Juifs qui vont aujourd'hui au temple, au mur des Lamentations, le Kotel, disent que pour eux, c'est l'endroit au monde où ils ressentent la présence de Dieu de la manière la plus sensible. Donc, ces collines de Jérusalem, cette ville de Jérusalem, cette image de ces montagnes qui entourent la ville, c'est une image très forte qui découle à la fois du domaine de la création, ça parle même à des gens qui ne sont pas croyants, la montagne, la stabilité, la beauté de la montagne, mais aussi dans la rédemption, dans l'histoire de la rédemption, puisque c'est sur cette colline de Sion, sur le mont Morizin en particulier, que Abraham est allé offrir son fils Isaac en sacrifice, sauf qu'il n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au bout du sacrifice, seul le fils fera cette démarche des siècles plus tard. Et c'est parce qu'il y a eu cet événement important dans l'Écriture que Dieu a choisi que Jésus mourrait sur le mont Golgotha. Voilà. Donc c'est un endroit unique au monde et dans l'histoire de l'humanité. Et cette permanence de Sion, donc on n'est pas en Valais, hein, vous avez bien compris. Cette permanence de Sion dans l'histoire du salut, eh bien, va s'accomplir parfaitement en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a choisi pour y faire régner, résider son nom à perpétuité. Jésus dira d'ailleurs aux Juifs, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » À la Samaritaine qui demandait à Jésus, « Mais où doit-on adorer ? Sur le mont Garizim, le mont Ébal qui est en Samarie ou à Jérusalem ?» Jésus dira, « Les vrais adorateurs, alors viens, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il déclinera par ailleurs aussi son identité de Messie. L'Épître aux Hébreux 12, 22 dit, « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion » C'est en parlant de Jésus que ces paroles sont dites. « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. » C'est magnifique cette image. Comme une parabole. Ce temple qui est entouré de ces montagnes, cette présence de Jésus, de Dieu aussi, qui est là symboliquement, mais je pensais à cette autre parole de Jésus prononcée à Jérusalem. « Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, hein, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Alors j'espère de tout cœur que chacun d'entre nous a choisi de se réfugier en Christ, Sauveur, Seigneur, unique salut. C'est là que nous sommes en sécurité, à jamais. Alors voilà, première affirmation de foi pour moi, stabilité et permanence en Dieu. Quels que soient les événements, nos circonstances, je crois que Dieu voudrait nous rejoindre sur ce terrain. Et je ne sais pas ce que vous vivez, dans quel état d'esprit vous êtes venu ce matin. J'étais cette semaine avec un homme qui sert le Seigneur de tout son cœur. Sa femme venait de le quitter. Il vient de perdre son travail, il a des problèmes de santé et un de ses enfants, adolescent, est en pleine révolte. Je ne savais pas que lui dire. D'ailleurs, il ne s'attendait pas à ce que je lui dise quelque chose. Je crois qu'il était reconnaissant que je l'écoute simplement, que j'accueille sa souffrance. Mais en même temps, j'ai quand même pu lui dire quelque chose. Je trouvais qu'il avait une paix incroyable, une sérénité incroyable. Et il m'a confirmé cela. Il m'a dit, effectivement, je reconnais que dans de telles circonstances, ou bien je regarde à mes limites et je me noie, ou je fais vraiment l'effort de lever les yeux vers Dieu pour y puiser la force, le secours nécessaire. Et là, je trouve, effectivement, tu as raison, je me sens pas désespéré. J'ai confiance que malgré tout, Dieu connaît ce qui se passe et qu'il mènera toutes choses à bonne fin pour moi. Ce n'était pas du fatalisme. Deuxième affirmation. J'irai plus vite pour la suite, Anne-Sophie, rassure-toi. Ça, c'était juste une flèche pour vous montrer où est le mur des lamentations, le mur de la vieille ville. Je suis bon avec vous. Voilà, le mont des Oliviers. Avec le mont Scopus, un peu plus à l'ouest, voilà, ces montagnes, ces collines qui entourent Jérusalem. Cette deuxième affirmation, car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Alors cette affirmation, c'est pour moi, c'est comme ça que je l'interprète avec mes mots. La protection divine n'exclut pas l'épreuve dans la vie des croyants. Ici, on ne sait pas exactement ce qu'elle représentait. À Jérusalem, il y a eu parfois des rois fidèles comme David. Salomon, en tout cas une partie de sa vie. Puis il y en a qui ont eu des cœurs partagés, qui ont été idolâtres. Il y a eu des tyrans étrangers qui sont venus dominer sur la ville. Donc il y a eu des épreuves pour le peuple de Dieu. Et pourtant, la promesse qui est là, l'assurance qui est donnée surtout, je dirais, dans le cœur du psalmiste, c'est que la confiance et la patience, on peut dire la persévérance, vont triompher de cela. C'est-à-dire confiance que, certes, Dieu peut permettre des temps de désarroi, des temps de traversée de désert, des temps difficiles, mais il tient toutes choses dans sa main. Ce qui est une bonne nouvelle par rapport à tous les tyrans qui dominent sur des royaumes de ce monde encore aujourd'hui. Dans tant de pays où il y a de la corruption, où il y a des gens qui sont mis en prison pour des futilités, il y a des injustices notoires, c'est quelque chose d'impressionnant. Des crimes qui ne seront sans doute jamais expiés du temps de la vie de ces hommes. Alors le souci du psalmiste, c'est de dire à quelque part, mais si Dieu, si tu permets trop longtemps qu'il y ait ces manifestations d'injustice, même les croyants les plus solides risquent de trébucher et finalement de prendre des armes de la chair pour essayer de se venger ou de renverser des pouvoirs tyranniques, mais pas forcément de la manière que toi tu voudrais. C'est vrai aussi de n'importe quelle souffrance, d'épreuve qui est trop importante, où il y a un risque de découragement, un risque d'être déstabilisé. Et c'est là que Dieu intervient pour dire, mais non, je connais ces choses, je sais ce que tu vis dans ton cœur, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Dans les Corinthiens, Paul dira, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parfois, j'ai envie de dire, c'est limite hein, quand même. C'est limite suivant les situations. Mais avec la tentation, Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Là, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je vais continuer pour finir à peu près dans les temps. La troisième affirmation dit ceci, enfin à partir du texte suivant, qui dit « Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. » Alors j'ai noté pour moi comme affirmation, eh bien, on peut vivre dans un environnement qui est déstabilisant. J'ai dû un peu plus m'impliquer dans la vie de l'Église persécutée cette année. Et quand je lis des récits de chrétiens persécutés, je me dis, mais comment est-ce que j'arriverai à assumer ce qu'ils assument? C'est tellement injuste, tellement difficile, tellement douloureux. Qu'on pense en Égypte, par exemple, dans des milieux musulmans, on vous enlève votre fille pour la marier de force à un musulman et la convertir à l'islam. Je ne sais pas comme père, je ne sais pas comment je réagirais. Je ne peux même pas essayer d'imaginer, de m'y préparer. Ça me semble tellement abject et je suis surpris de voir comment Dieu donne des ressources et la force dans ces temps-là à des gens qui passent par ces oppressions. Mais pour être honnête, un certain nombre de croyants, bien sûr, passent aussi par des profondes dépressions quand les choses sont comme ça. Quoi qu'il en soit, cela pourrait nous conduire à la résignation, à la passivité, au découragement total. Alors Dieu nous donne des ressources. Notamment une de ces ressources, pour moi, c'est la prière. Et j'affirme que la prière est une ressource. Et que Dieu veut nous accorder par la prière de vivre des choses qui sont précieuses. La prière tout seul, peut-être la prière à plusieurs si on est dans le désespoir. Et on peut prier pour que Dieu bénisse les chrétiens persécutés ou des personnes qu'on connaît, des gens qui sont droits de cœur, et qui sont licenciés dans leur travail, qui sont en burn-out. Toutes sortes de situations que nous pouvons côtoyer dans notre quotidien. On peut intercéder pour que Dieu bénisse les justes, les hommes droits, les hommes de piété. Mais on peut aussi, et les psaumes ne s'en privent pas, vivre des temps de prière d'imprécation. Ces prières qui sont à quelque part des prières de malédiction. Ça semble curieux, hein ? Mais vraiment, si vous lisez les psaumes, souvent dans des situations d'injustice profonde, il y a ces prières de ce type. Ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, injustes, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. C'est dire que, finalement, ce psaume de confiance débouche ainsi sur la clarté finale du jugement. Alors on ne va pas, nous, prendre les armes pour tuer un méchant, pas forcément en tout cas. Je pense qu'il y a des cas de légitime défense, bien entendu. Mais Dieu connaît nos ras-le-bol, nos sentiments d'injustice, et il peut répondre à nos prières. Je repensais à ces 7 années de prières menées par Portes Ouvertes, qui s'est terminée en 1989, pour que le mur entre l'Est et l'Ouest soit détruit. Et après 7 années de prières intenses des chrétiens du monde entier, le mur de Berlin s'est écroulé. Et ça a donné une libération incroyable. On a pu faire pénétrer des Bibles par milliers, par centaines de milliers dans les pays de l'Est. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de murailles de ce type. Oui, il y a des jugements auxquels nous allons assister déjà ici-bas, et puis il y a un jugement final. C'est ainsi de toute manière que se terminera l'histoire de notre monde et que Dieu instaurera enfin sa paix absolue, sa paix dans la plénitude, alors qu'il nous bénisse, qu'il nous encourage, qu'il nous fortifie. Et que ce psaume, on puisse le relire, on puisse peut-être annoter certaines proclamations, affirmations de foi personnelles qui peuvent vraiment nous aider pour non seulement être nous-mêmes bénis, mais pour que nous puissions bénir d'autres. Que la paix soit sur Israël, sur l'Israël de Dieu, sur tous les enfants de Dieu, sur tout son peuple. Amen.